Bon, bah je vais commencer donc cette présentation qui se fait à trois voix. Donc déjà, c'est chouette de se retrouver ici. Je suis très contente d'être là avec Marie-Annick, Emilien et Claire et de présenter ce projet au long cours qu'on a pu faire pour une mission qui s'appelle Décliner la science ouverte. Et puis j'aime beaucoup cette initiative CocoPie-SHS. L'année dernière, on avait pu présenter avec ma collègue Maya Anderson notre approche cartographique et l'usage de Python qu'on avait pu faire pour d'autres missions. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir un espace comme ça de partage où on peut aller dans les coulisses du code, des pratiques, des essais et des erreurs. Je pense que ça permet aussi de décomplexer beaucoup de personnes et vraiment montrer voilà, les accrochages, les petites tensions, les questions qui se posent tout au long de la recherche et qui est la véritable recherche. Pour me présenter très rapidement, et je laisserai après Claire et Emilien se représenter, moi je travaille au sein d'une entreprise qui s'appelle InnoCube, qui est spécialisée sur les questions d'open source, d'open data et de commun. Et dans ce cadre-là, je mène les projets de recherche, recherche-action au sein du cabinet. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Claire et Emilien aussi par l'entreprise de Marie-Annick, sur un projet qui s'appelle Décliner la science ouverte, qu'on a mené pour le Comité pour la science ouverte dans le cadre du collège Donné. Et Décliner la science ouverte, c'est une enquête qui était dans la mission Réussir l'appropriation de la science ouverte. Je vais tout de suite vous partager le site qu'on a pu réaliser. Donc, Décliner la science ouverte, c'était une étude pour mieux appréhender les pratiques associées aux données et leurs évolutions avec leur science ouverte. Et ce qui était important pour nous, pourquoi on a parlé de déclinaison, c'est de partir du principe que actuellement, la science ouverte parle d'ouverture des données, mais sans questionner vraiment ce que cela implique dans différentes communautés disciplinaires, communautés de pratique, et que même cette notion de données n'est pas évidente en fonction des communautés. Par exemple, en anthropologie, on ne parle pas forcément de données, on parle d'autres termes, de corpus aussi, par exemple en histoire ou autre. Et donc, nous, on est allé vraiment au plus près des pratiques et des acteurs. Dans le domaine plutôt de la biologie et dans le domaine plus large des SHS, notamment avec une journée d'études qu'on a pu faire pour voir toutes ces pratiques. La mission a eu plusieurs phases, donc une phase plus qualitative au départ avec des entretiens. Ensuite, on a pu réaliser un questionnaire et c'est ce questionnaire données et sciences ouvertes que l'on va pouvoir discuter aujourd'hui, parce que c'est ce questionnaire qui a fait l'objet d'une analyse quantitative donc avec Claire sur R, puis un enjeu de reproductibilité avec Émilien, avec le passage vers Python. Et donc, cette étude était aussi très chouette parce qu'on était une équipe multidisciplinaire et on va dire multiprofessionnelle avec à la fois des chercheurs, des ingénieurs d'études, de recherche, des archivistes. Et donc, tous les résultats sont partagés sur ce site-là. Et également, si vous regardez sur le à propos, il y a un rapport qui est publié sur HAL. Et également, il y a le partage des données qui a été fait. Donc, on s'est vraiment impliqué, on s'est vraiment inséré dans une dynamique de science ouverte. Donc, les données ont été partagées. Et énormément, et notamment le code et l'essai de reproductibilité qui a été fait par Emilien et mis en ligne sur un GitLab dans la partie script. Et Emilien va pouvoir en discuter tout à l'heure. Donc ça, c'était pour une présentation rapide de l'étude et du contexte de notre rencontre. Nous, ce qu'on a souhaité faire, est-ce que c'est bon, c'est ici. Voilà, ce qu'on a souhaité faire, c'est, je vais dézoomer. Voilà. C'est aujourd'hui vous faire part de notre expérience, d'un travail donc sur un questionnaire, donc sur le questionnaire données et sciences ouvertes, avec tout le travail de Claire d'analyse sur R. Et puis de l'essai de reproductibilité qui a été fait sur Python par la suite avec Emilien. Pendant tout ce travail, il y a différentes questions qui se sont posées. On a pu échanger avec Émilien et Claire ensemble et est venue cette idée de cette présentation parce qu'on a pu faire plusieurs constats et de montrer comment derrière cette traduction, il y avait vraiment un bagage qui était souvent invisibilité épistémologique et technique qui allait ressortir. Et c'est ça qu'on souhaitait discuter aujourd'hui. Et en dernière partie, on a pu réfléchir un peu à des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour articuler aussi ce dialogue entre R et Python. Voilà, donc je laisse maintenant Claire commencer par le retour d'expérience pour vous partager un peu ce qui s'est passé sur l'analyse avec R.
Oui, merci beaucoup Célia. Donc moi, je suis historienne, directrice de recherche au CNRS. Et ça a son importance parce qu'effectivement, ce qui est super dans cette enquête, c'est que je pense qu'on n'a que des gens honnêtes qui veulent bien faire le travail et qui se respectent mutuellement, y compris avant l'histoire du questionnaire et jusqu'à la fin avec Émilien. Et ce qu'il faut dire aussi, et qui joue pas mal dans les difficultés qu'on a rencontrées, et je le dis parce que c'est loin d'être particulier à cette enquête, c'est que c'était que des gens qui soit n'étaient pas payés pour ça, soit étaient des précaires payés pour ça, mais pas du tout le nombre d'heures correspondant à ce qu'il fallait pour bien faire. Et donc, on a été tous et toutes prises dans une tension entre notre perfectionnisme, et notamment ici, puisqu'on travaillait sur l'open data, l'idée d'ouvrir nos propres données quand même, et de faire bien et de se parler respectueusement et tout, et le fait qu'on faisait ça un peu à titre de loisir la nuit, etc. Ce qui explique sans doute une partie des frottements qui sont produits, mais on va dire que ce n'est pas non plus tout à fait rare dans les projets de recherche comme situation. Et donc, bizarrement, en tant qu'historienne, je me suis retrouvée à être la personne qui traitait le questionnaire. C'est aussi parce que c'est un questionnaire un petit peu particulier. Donc, je raconte ce qu'il y a sur la slide, et après, je vais vous montrer, ce sera plus clair. On avait quelques questions auxquelles on voulait répondre, en fait, sur la base d'une enquête qualitative très approfondie et très bien faite par Célia, qui avait fait des longs entretiens, des observations, des focus groups sur comment des chercheurs-chercheuses de différents domaines travaillent avec leurs données. Du coup, on avait quand même une petite idée de certaines choses qu'on voulait prouver, trouver et dire très fort à nos commanditaires. Donc, il y avait en gros quelques questions dont on soupçonnait la réponse et on faisait un questionnaire pour avoir un peu du chiffre parce qu'on savait que les gens en face ne seraient pas forcément convaincus que par des entretiens. Mais voilà. Et notamment, on voulait montrer que très peu de personnes réutilisent actuellement des données d'autres personnes. C'est une pratique très rare, très circonscrite, associée à certaines autres choses qu'on peut vouloir développer mais qu'il ne faut pas faire comme si les gens étaient ultra demandeurs d'emblée. Et on voulait dire ce que Célia a déjà dit, que le mot même de données ne va pas forcément de soi. Que les gens appellent données des choses très différentes selon les disciplines et appellent autre chose qu'on appelle données dans certaines disciplines. Donc là, en gros, on savait qu'on allait poser des questions fermées et qu'est-ce qu'on voudrait faire avec, chercher des corrélations. Bon. Mais en fait, comme on est des grosses qualis qui font un questionnaire, on voulait continuer à explorer qualitativement aussi des choses via ce questionnaire. Et une des missions de base de décliner la science ouverte, on a beaucoup galéré pour trouver un nom, et décliner, c'est un peu décliniste, mais c'était la science ouverte, ça doit différer selon quelque chose. Alors moi, j'étais beaucoup partie sur les disciplines. En fait, à la RIV, ce n'est pas exactement ça. C'est aussi les environnements de travail, les communautés épistémiques, etc. Mais c'est l'idée qu'il y aura forcément plusieurs sciences ouvertes. Et donc, le but de ce questionnaire, c'était aussi d'arriver à mapper, en quelque sorte, la diversité du monde de la recherche dans son rapport avec les données, ce que les gens font concrètement. D'où le fait qu'on voulait beaucoup de questions assez détaillées et une approche assez exploratoire, un peu en mode data mining à l'arrivée, quoi. Et donc, avec tout ça, on voulait à la fois comprendre ce qu'il y avait dans nos données. Moi, je voulais faire comprendre à Célia, qui est plus quali, même si très technophile, les traitements que j'avais faits, voir si ça correspondait à ce qu'elle voulait faire, etc. Et tout ça dans un temps record, on devait aussi produire des résultats visuellement compréhensibles par nos commanditaires, qui sont quand même des gens qui regardent des PowerPoint toute la journée, en gros. Donc, ça fait beaucoup d'objectifs contradictoires. Alors, juste, je vous montre un peu du matériau avant de passer à la slide d'après, où je ne sais même pas si on en aura besoin, du coup. Une petite idée du questionnaire qui évidemment ne se présentait pas comme ça, il était sur un outil de questionnaire en ligne, mais juste pour dire, ça fait 23 pages PDF en substance, et à chaque fois on propose des commentaires, des autres, des questions ouvertes pour les gens qui veulent, et des gens s'en sont saisis, et Célia a bien tiré avantage de ça. Mais donc on démarre par demander aux gens dans quel type d'endroit il et elle travaillent. Et je vais prendre l'exemple de cette question-là pour toute la suite. On termine en demandant quelques infos sur les gens minimales, mais notamment leur discipline, puisque c'était un peu une de nos questions quand même, est-ce que c'est les disciplines qui ordonnent tout ça? Et aussi parce qu'on savait qu'on n'allait pas forcément diffuser le questionnaire également dans toutes les disciplines, hein. Il n'y a pas de liste qui permet d'atteindre tout le monde titulaire et précaire dans la recherche en France. Donc on savait qu'on surreprésenterait certaines parties, on voulait aussi pouvoir mesurer ça et le pondérer. Et du coup, comme on est quand même toujours des grosses qualis, au lieu de mettre des catégories très simples où les gens pourraient se classer une bonne fois et où en fait on enverrait le problème vers les gens, es-tu mathématicien ou physicien, ben, on leur a mis une question à choix multiples, dont un des choix est pluridisciplinaire, donc on pourrait faire une discipline ou plusieurs, dans laquelle les disciplines des sciences humaines et sociales étaient très regroupées. C'est un classement un peu standard qui est comme ça. Et on a demandé aux gens, optionnellement, de caractériser leur spécialité en leur donnant des exemples un peu précis, mais pas trop, et en se disant, on va sans doute utiliser ça. Donc, ces questions un peu semi-ouvertes, semi-fermées. Donc, à l'arrivée, Célia m'envoie le CSV issu du questionnaire. Hop. Et qu'est-ce qu'on trouve, du coup? Un très, très, très grand nombre de colonnes. Ça, j'adore. Dont certaines ont l'air d'être simples à quantifier, notamment de ne pas avoir besoin de recodage ou de ce que d'aucuns appellent le nettoyage de données, qui est une formule que j'aime pas, mais bon. Enfin, donc, des colonnes qui ont l'air d'être des oui et des non et qu'il n'y a pas trop besoin de remettre en forme, et des colonnes plus compliquées. Je ne sais pas si c'est zoomé assez, mais enfin, vous voyez que les gens ont mis un coup histoire contemporaine, un coup littérature française du 19e siècle, un coup quasiment le résumé de leur thèse. En fait, même les colonnes oui non, elles n'étaient pas si simples, parce qu'à l'arrivée, on voulait quand même plus ou moins catégoriser les gens dans une seule discipline. Ça nous facilitait la vie, tout en se donnant la possibilité de le faire de plusieurs façons. Et donc, en fait, les gens qui ont mis maths et physique ou informatique et lettres, on a dû faire des choix, mais l'idée, c'était qu'on puisse en faire plusieurs pour recoder ces paquets de colonnes-là de manière plus commode pour ce qu'on voulait faire. Et puis, alors il y a d'autres questions ouvertes qu'on a laissées pour un traitement purement qualitatif, mais comme il s'est avéré prévisiblement qu'on avait beaucoup de réponses en sciences humaines et sociales, on voulait, par exemple, dire c'est plutôt de l'historien ou c'est plutôt de la sociologue, sachant qu'il y a des gens qui mettaient socio-histoire. Et donc, c'est poser la question, en première étape, avant de faire toute forme de traitement quantitatif, en fait, de comment simplifier les données pour les rendre plus facilement quantifiables, sans perdre toute la finesse qu'on avait souhaité mettre dans ce questionnaire. Et sachant qu'on avait un horizon lointain à l'époque de reproductibilité et un horizon beaucoup plus proche de juste que Célia comprenne ce que j'ai fait, puisse le critiquer, me dire de le faire autrement, et ainsi de suite. Et donc, c'est là que les ennuis ont commencé, d'une certaine façon. Est-ce que je vais départager l'écran si j'y arrive. Hop. Du coup... que ces premiers traitements, moi, je les ai faits dans mon tableur LibreOffice Calc, celui que je vous ai montré dans la suite du fichier là, en essayant de les documenter au mieux pour Célia. Ben, si, je l'ai quand même. Hop, je vous montre comment ça se présentait dans un outil que j'ai découvert grâce à Célia pour communiquer entre nous et qui était très, très chouette. Donc, on a un long dialogue en ligne qui se formate un petit peu comme ça, voilà. Et où j'ai pris exprès une des questions les plus compliquées. Hein, mais du coup, je dis, il y a l'air d'avoir ça. Célia a dit, ce serait quand même super si on pouvait faire une analyse qualitative de ce qu'on a. Et moi, je me dis quantitative aussi. Et donc, je fais une première explication en disant, j'ai codé à l'arrache à partir des mentions les plus fréquentes. Et j'ai mis une petite règle qui, pour moi, était claire. Donc, Célia, elle m'a dit très poliment que c'était vraiment très mal expliqué, ce qui était vrai. Mais Célia dit ces choses très, très poliment. Et j'ai essayé de le remettre avec des mots français. Une règle qui, en fait, est une règle logique. Hein. C'est des égales si avec beaucoup de parenthèses pour les gens qui font des formules à l'ancienne sur comment j'avais traité au mieux le fait que les gens font plusieurs choses à la fois. Et pourquoi j'avais priorisé telle ou telle discipline. Et à chaque fois, je mets ça se discute. Puis finalement, on ne l'a jamais discuté parce qu'on n'avait pas le temps. On est resté sur ça. Et donc, le problème, c'est que tout ça n'était nulle part en dur, ni dans le fichier des données, ni dans un fichier de code. Enfin, heureusement, c'était quand même dans les données, puisqu'à chaque fois, je gardais la colonne avec les précisions d'origine, avec à côté la colonne resimplifiée. Donc, ce qui a permis à Emilien de retrouver ses petits à la fin, mais bon. Et je dois dire que le fait qu'il y ait des colonnes très compliquées comme ça a sans doute influencé le fait que je recode finalement tout je resimplifie tout, sous mon tableur, alors qu'en réfléchissant 2 minutes, il y avait quand même des questions beaucoup plus simples qui étaient de l'ordre de combien de pourcents de votre temps passez-vous à ça, plutôt 10, 20, 30, 40, 50%, où là, il s'agit seulement de faire des classes de pourcentage. Et ça, même moi, qui ne suis pas très geek, je savais faire ça dans R, de transformer avec une ligne de code un peu propre, de transformer ça en 2-3 classes de pourcentage un peu beaucoup. Et en fait, je ne l'avais pas fait parce que j'étais dans mon tableur et aussi que j'étais trop fatiguée. Donc, un pré-travail assez long sur le tableur, mais je développe ça parce que je pense qu'à la fois, c'est lié au fait qu'on avait pensé le questionnaire de façon pas trop pré-codée, et donc il y avait ce travail à faire. Et pourquoi je l'ai fait sur le tableur, c'est aussi sans doute une habitude disciplinaire qui est liée au fait que je suis historienne, que je passe mon temps à enseigner les méthodes quantitatives pour débuter en histoire, et qu'en histoire, les gens ont déjà très peur des tableurs. Donc avant d'en emmener une partie sous R, éventuellement dans l'avenir sous Python, je passe beaucoup de temps à leur montrer tout ce qu'on peut bricoler avec un tableur, et je pense que ça influence le fait que, un peu naturellement, dans ma propre pratique, je vais faire pareil alors que je saurais le faire mieux. Ouais, après, je pense, Célia, si tu veux, on peut remettre la présentation.
Oui.
Ouais. Et du coup, après, bah, qu'est-ce qui s'est passé de là ? On voulait donc obtenir certains comptages assez simples. Donc après la phase recodage initiaux pour sentir les données. Là, je suis passée sous R en essayant de documenter à minima mon code pour Célia, en faisant donc 2 choses, hein, si vous vous rappelez au début. On voulait produire des comptages très simples, genre montrer que très peu de gens réutilisent. Ce qu'on appelle en sociologie aussi des tris croisés, des études de corrélation, bah, montrer les très peu de gens qui réutilisent. Qui sont ces gens en termes de discipline, par exemple, et surtout, qu'est-ce qu'ils et elles font d'autres de particulier. Là, j'ai utilisé typiquement sur ces variables qui nous intéressaient beaucoup, comme la réutilisation ou pas, ou la manière dont les gens appellent ce que certains appellent données, une fonction qui, pour moi, devrait être une fonction que tout le monde utilise sur les grosses bases de données, et qui, en fait, est cachée dans un package R français, pas toujours aussi bien documenté qu'on voudrait et tout. Et qui, en gros, est une fonction qu'il n'y a que moi qui utilise souvent sur la surface du monde, je pense aux grandes dames d'Emilien, et qui est juste une fonction qui, quand vous avez 150 questions et vous voulez voir comment toutes les autres réponses s'arrangent par rapport à une réponse d'intérêt, par exemple, est-ce que vous réutilisez des données ou pas, vous dites dans cette fonction, bah, je voudrais savoir comment toutes les autres colonnes sont corrélées avec cette colonne-là, comment toutes les autres questions, réponses sont corrélées avec cette réponse-là. Donc ça, c'était censé être simple, c'est devenu compliqué à la réutilisation. Et puis, donc ça, c'est ma routine personnelle fonction 4DES qui est à la fin. Et puis, j'ai utilisé des bibliothèques R que moi, je connaissais bien pour dessiner différents profils, donc à base de ce qu'on appelle analyse factorielle en statistique et classification automatique, et d'autres bibliothèques R que moi, je ne connaissais pas. Et je trouve ça assez intéressant aussi, c'est que Célia me disait, bah, j'aimerais bien avoir les données sous un certain format, soit directement pour les montrer dans le rapport, soit pour les donner à notre graphiste, à InnoCube, qui a besoin d'un certain format de base de résultats, de tri pour faire des jolis graphes, que moi, je ne savais pas faire sous R. Et donc là, bah, j'ai été chercher dans la nature du web des fonctions R correspondant à ce que je voulais faire. Donc, j'ai découvert des trucs cool dans GT Summary, par exemple, que je ne connaissais pas du tout à cette occasion. Et ça, c'est un peu toujours la beauté, la complication de R, c'est que quelqu'un a forcément inventé la fonction dont tu as besoin, mais va savoir où c'est. Et en même temps, qu'il y a des communautés en ligne qui permettent de le retrouver. Donc, à la fin, on arrive avec des choses qui nous plaisent bien intellectuellement, qu'on met dans le rapport, mais qui répondent aussi, et je terminerai par là, qui sont le produit de plein de résultats, entre guillemets, négatifs, c'est-à-dire qu'on a essayé plein de trucs dont on s'est dit, soit c'est pas si intéressant que ça, soit c'est compliqué à expliquer, qu'on avait un nombre de pages limitées dans le rapport, qu'on voulait mettre la focale sur certaines choses. En gros, il y en a qui auraient fait quasiment une thèse sur les résultats de ce questionnaire. Et donc, pour moi, c'était une raison peut-être mauvaise de ne pas tout documenter au fur et à mesure dans une optique de réutilisation. Et ça, c'est toujours une grosse question hein, pour la réutilisation. C'est est-ce qu'on documente seulement ce qu'on a publié, c'est-à-dire ce qu'on a à la fin, ce qui a marché et qu'on a trouvé super intéressant à la fin, ou est-ce qu'on documente toutes les étapes intermédiaires? Et là, clairement, moi, je n'avais pas l'énergie de documenter toutes les étapes intermédiaires et je ne savais pas qui ça pourrait intéresser. Donc, je me suis dit, ben, on fait les trucs, on documente à minima pour que Célia et moi, on s'y retrouve. Et puis, quand on saura ce dont on a eu besoin à la fin, on rétro-documentera ça pour que ce soit reproductible. Et c'est là qu'en fait, je suis partie en burn-out. Donc, ce n'est pas forcément pour autant que j'aurais su le faire, Mais ça n'a pas simplifié la suite, puisque non seulement je ne l'ai pas fait, mais qu'en plus, Emilien et Célia qui l'ont fait ne m'avaient pas sous la main pour me poser les questions pendant longtemps.
Je tiens à préciser que ça a été une des recherches moi, que j'ai menées la plus fluide possible, et notamment avec les échanges avec Claire, et que sur le point de la documentation au fil de l'eau, c'est quelque chose qui était suffisant pour nous. Il y a vraiment eu ce travail aussi par le tableau, par calque, d'avoir une base suffisante de compréhension et on va dire d'appropriation et de bidouillage possible pour toutes les deux. Donc ça, c'était vraiment très, très utile. Et c'est des questions qu'on s'est posées aussi dans notre rapport sur la question de à qui on ouvre et qui est le public des données et comment ça oriente la façon dont on va ouvrir. Donc, on s'est retrouvé complètement dans cette situation-là. Et également, une notion qui ressort souvent de narration des données. C'est difficile et c'est souvent faux de dire qu'on va détailler étape par étape tout ce qui a été fait. Il y a une narration qui est refaite après sur le travail qui est fait. Et je pense que c'est ce qu'on a fait avec le plus d'honnêteté possible, mais aussi beaucoup, beaucoup de fluidité dans les échanges. Donc, pour moi, c'était une très belle expérience. Voilà, donc ça, c'est notre retour d'expérience, Claire et moi, et Emilien, qui est arrivé par la suite. Et même Claire, hein, tu es revenue après pour nous aider. Donc, on a eu toutes ces discussions-là. Donc, on a fini bien tous les trois cette mission. Donc, on te laisse peut-être la parole maintenant, Emilien, sur toi, ton retour d'expérience, sur ce que tu as pu faire après et sur la demande aussi qu'on a pu te faire.
Alors oui, merci beaucoup. C'est vraiment super de pouvoir écouter ça après. Je vais être assez court, mais moi j'ai eu le rôle un peu en bout de chaîne et vraiment très technique. Moi je suis arrivé après toute cette réflexion intellectuelle dense sur la qualité du contenu substantiel, sur une vraie question de recherche, avec une réflexion, avec une analyse, et je suis venu un peu en mode prestataire, formel, sur reproduire un travail déjà fait. Et donc, de sa manière, c'est un rôle un peu à la fois fréquent quand on fait traitement de données et à la fois un peu aussi d'enquêteur où il faut essayer de reconstituer les différentes étapes et de comment ça s'est passé, sachant qu'un travail énorme a été fourni, ce qui veut dire aussi que la réflexion a avancé, elle a trouvé ses propres logiques internes, elle s'est incarnée dans des personnes, dans des façons de réflexion, des échanges, que je n'avais que partiellement disponible. Et effectivement, à la base, moi, je suis arrivé avec, juste pour partager le tableau, mais qui a déjà été partagé, avec un tableau énorme, avec plein d'éléments, avec plein de colonnes, avec toute une logique qui était derrière sur de traitements qui ont déjà été faits, certains en couleur, certains pas en couleur, etc. Et avec un script aussi existant que je pouvais consulter, et avec mes propres outils. Dans ce cas précis, c'était avec une habitude de travailler en Python, avec l'objectif de rendre quelque chose de reproductible, et donc d'arriver le plus proche possible de résultats déjà obtenus. Et là, heureusement que Célia et Claire ont été disponibles, parce que c'est un temps fou d'essayer de comprendre. Donc, j'ai posé plein de questions bêtes, j'ai posé 3-4 fois, parce que c'est un travail finalement de se remettre dans une logique de pensée qui n'était pas du tout la mienne à la base. Et donc, c'est une opération qui force, de manière très artificielle en fait, à réexpliciter toutes les étapes de la construction de la problématique. Et je voudrais remercier énormément la patience de Célia qui m'a répondu encore et encore à mes questions. Parce qu'il y a des fois où juste je ne comprenais pas pourquoi ces étapes étaient faites, n'ayant pas la même culture disciplinaire forcément ou la même histoire par rapport aux données. On pourrait dire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je vais repartager les slides qui en fait, c'est un peu un jeu de slides permanence. Désolé, je vais y arriver. Super, merci beaucoup d'avoir refait ça. Et donc, j'ai conduit à réexpliciter certains traitements, des traitements évidents, et on retrouve en fait une grande proximité potentiellement entre les outils du tableur de R qui intègre en fait de sa manière la philosophie d'un data frame, la philosophie finalement d'un tableur, et puis Python qui derrière c'est a coévolué ou a repris aussi des notions qui existent en R. Et donc, de cette manière, pour beaucoup de traitements, on va dire, standards, il y avait des évidences dans la manière de traiter une fois que la logique sous-jacente a été comprise. Et peut-être le point le plus important, et c'est celui qui a déjà été mentionné par Claire et par Célia, c'est que certains traitements sont font partie d'une sorte de grammaire commune, partagée à la fois disciplinairement et à la fois dans les outils qu'on utilise. Par contre, d'autres non. Et spécifiquement, dans le cas de cette étude, Claire a utilisé, de manière complètement logique, par rapport à ce que font les historiens et par rapport à sa propre pratique de recherche, une fonction qui s'appelle CatDesk, qu'elle a déjà mentionné, qui existe en R, qui a été implémentée, qui est maintenue, qui est utilisée, pas forcément énormément, mais surtout en France, et qui n'existe pas du tout en Python. Et à ce moment-là, on se retrouve dans un vrai problème, qui est, bah, si on veut faire une vraie reproductibilité, et non pas simplement essayer de retrouver des résultats généraux, donc forcément, j'aurais pu utiliser d'autres stratégies qui auraient donné des résultats similaires et pas si différents que ça, parce que finalement, ce qui a été montré à travers les données, ce sont des régularités statistiques, et on pourrait les remontrer par d'autres approches. Comme là, la demande est aussi une demande de reproductibilité computationnelle, c'est-à-dire vraiment essayer de retrouver les mêmes résultats exactement, ou si on ne les retrouve pas exactement, de retrouver la différence. Pourquoi il y a une différence entre ce qu'on aurait obtenu avant et ce qu'on aurait obtenu après, qui a d'ailleurs permis d'identifier quelques erreurs de codage, par exemple, dans le tableau qui a été fait à la main, et donc qui est intéressante aussi pour solidifier finalement une chaîne de traitement. Bah, pour faire ça, bah, il faut avoir exactement les mêmes outils. Et quand ça arrive, bah, on part dans une grande enquête pour essayer bah, de comprendre ce qu'une fonction qui existe dans un univers fait, et pour pouvoir la réimplémenter dans un autre langage, dans ce cas-là, Python. Et donc, en fait, la reproductibilité là, et c'est quelque chose qui arrive très souvent et qui arrive tantôt de manière quasiment invisible parce que certaines choses sont très évidentes à refaire et qui, dans certains cas, peut prendre beaucoup d'énergie, surtout comme ici où on a finalement la situation où on a une communauté des historiens qui utilisent largement R, des data scientists qui utilisent largement Python mais qui ne font pas du tout le même traitement, et donc aucune raison que quelqu'un se soit vraiment déjà penché à reproduire cette fonction-là. Parce que cette interface spécifique, en fait, est quasiment inexistante entre la communauté d'historiens francophones et la communauté data scientists en Python. Et donc, là, il fallait comprendre ce que la fonction fait, et donc, c'est une sorte de traduction. Et comme toutes les traductions, c'est extrêmement laborieux, parce que bah, je parle très peu R, je connais très peu, en fait, le corpus de statistiques spécifiques qui sont utilisés en histoire, et en plus, dans ce cas précis, il y avait des homonymies, il y avait des faux amis dans le nom même des notions. Il y avait une valeur V qui était donnée, une valeur V, on a l'impression que c'est un V de Cramer ou c'est quelque chose qui existe, c'est en fait pas du tout, c'était un test spécifique calculé dans le cadre d'une approche multinomiale. Et donc là, beaucoup, heureusement qu'il y avait aussi le reste des communautés qui ont pu aider à faire la transcription. J'ai passé, alors je peux le partager rapidement, je reprends l'échange, je vais juste repasser mon écran 2 secondes. Hop, comme ça, je reprends les slides, mais si on va sur la période, donc je ne sais plus quand c'était en juillet 2022, bah, je demande en fait de l'aide à la communauté sur Twitter, des gens qui me suivent, me demandent bah, aidez-moi parce que je ne comprends pas du tout comment on fait un certain type de test, je n'ai pas du tout les mêmes résultats, je n'arrive pas à retomber sur les résultats de la fonction CatDes en R, j'ai des trucs similaires, mais par contre pas exactement les mêmes valeurs, je ne comprends pas en fait. Si on veut reproduire, il faut avoir exactement les mêmes valeurs. Et heureusement, pour le coup, il y a Amadou Diko qui est statisticien qui m'a un peu débloqué, qui m'a donné quelques billes, qui m'a un peu trouvé aussi des explications et qui a permis en fait de consolider progressivement finalement un outil qui n'existait pas en Python, de le stabiliser, de le tester dans le cas précis là, de l'enquête, et puis à terme bah, de le porter dans la bibliothèque PySHS, qui est une petite bibliothèque qui permet de mettre les outils que j'utilise, et donc maintenant de proposer une première implantation d'une fonction qui n'existait pas dans la communauté Python. Alors, certes inconnue, certes cachée un peu pour l'instant dans la diversité des options, mais en fait, une des conséquences du travail de traduction initié par Célia et Claire a été finalement de densifier un peu plus les outils disponibles pour la communauté des SHS en Python. Alors, il y a encore des petites différences, ce n'est pas exactement la même valeur, mais finalement, on peut en refaire certains types de traitements et on peut aussi monter en généralité et se rendre compte que c'est un type de traitement original, intéressant, qui a été développé en histoire et qui mériterait d'avoir plus d'attention, en fait. Parce que beaucoup, si Claire l'utilise, ce n'est pas pour rien, c'est que c'est une fonction qui est très intéressante. Et d'ailleurs, là, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai utilisé dans un article récent et que ça a donné lieu à faire un traitement d'un article publié dans une revue anglophone de sciences sociales médicales. Et le traitement a été réalisé grâce à cette fonction. Parce que finalement, elle est bien utile pour faire ce pourquoi elle a été utilisée par Claire et donner les résultats. Et donc là, on se retrouve finalement avec une traduction, une reproductivité qui a eu des effets, des externalités à différents niveaux. Par contre, et effectivement, et Claire l'a mentionné, ça prend du temps. Et je pense que toutes les étapes ont dû prendre du temps. L'enquête, un questionnaire, on sait que ça prend un temps fou. Le travail sur les données de type tabulaire, ça prend un temps qui explose parce qu'on passe un temps à faire des manipulations et les refaire. Et puis, bah, modifier du code ou réécrire une fonction, bah, c'est un temps qui n'est pas prévu dans le travail de reproductibilité à la base. Et finalement, c'est vrai. Si la fonction existait, ça m'aurait pris une demi-heure de tout faire. Comme elle n'existe pas, bah, tout ce travail-là se rajoute et il ne peut pas du tout être prévu. Ou du moins, il faut une très bonne connaissance bah, des existants pour pouvoir anticiper ça. Et donc là, on retrouve un peu aussi le risque de l'open source avec toutes ces franges et ces zones instables qui peuvent être instables juste parce que certaines choses ne sont plus maintenues dans le futur et donc qui créent en fait plein d'instabilités qui sont importantes à prendre en compte dès qu'on est sur les frontières mouvantes de la recherche et de l'innovation qui sont les nôtres. Voilà, j'ai un peu donné un serpent d'éléments et donc je repasse la main sur l'analyse transversale, même si j'ai déjà expliqué quelques éléments un peu trop tôt par rapport à la trame de la présentation.
C'est parfait, on va pouvoir compléter hein, tous les trois. Maintenant, sur les constats que nous avons pu faire, on s'est réunis, Claire, Emilien et moi, lors d'une réunion après le travail de reproductibilité, et qui avait aussi, hein, ce qui est important, une fonction aussi de sensibilisation et de formation. Emilien a pu venir présenter un peu son travail de reproductibilité avec donc le Python, hein, le Jupyter Notebook, présenter toutes les étapes, rediscuter, et il y a aussi tout un travail de documentation qui a été fait et des questions aussi qui se sont posées. Donc c'est aussi ça, nous, je pense, dans l'approche de la science ouverte, c'est à la fois partager, ouvrir, mais aussi aider à l'appropriation de l'ensemble des contextes par une documentation assez poussée. Donc par rapport au constat, là pour les premiers, on va parler avec Claire de ce qu'on a pu noter. C'est déjà ce point de langage et de communauté. Derrière l'utilisation de R, il y a une communauté de pratique, une communauté épistémique. Là, on voit que la fonction a été beaucoup de fonctions, donc c'est facto, minor et CapDS, c'était plutôt dans le domaine de l'histoire. Claire, je vais te laisser préciser, bien sûr. Et que ce passage de R vers Python, ça a rendu visible tous ces choix. Donc des choix méthodologiques, des choix aussi épistémaux. C'est tellement ancré dans les communautés qu'on ne les pose même pas. Par exemple, Emilien parlait des tests statistiques qui n'étaient pas les mêmes. Et tout cela est apparu. Donc, Claire, je te laisse peut-être donner quelques détails sur ces éléments qui sont apparus clairement lors du passage de R vers Python.
Justement, c'était intéressant que Emilien l'interprète comme étant quelque chose qui vient de l'histoire ou d'autres communautés de SHS où j'aurais été lui pas, alors que bon, tous les deux, on est quand même... Enfin, lui, il est sociologue et moi, je suis pas très loin. Mais en fait, on n'a pas forcément parlé avec les mêmes gens. Il y a cette histoire de CADES et puis il y a le réflexe plus général. J'ai un très grand nombre de variables qui décrivent dans le détail différentes facettes du travail de personnes. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai quelques centaines de personnes et j'ai aussi quasiment quelques centaines d'informations pour chaque personne. Qu'est-ce que je fais pour explorer cette diversité? Moi, mon premier réflexe, qui s'est solidifié aussi parce que j'enseigne, c'est que je fais une analyse factorielle suivie d'une classification et ensuite on verra. Et ça, c'est un réflexe qui me vient d'où? En fait, qui vient d'une tradition plutôt sociologique en France, plutôt bourdieusienne, mais qui a essaimé dans d'autres endroits en se détachant de la théorie, mais pas que. Le fait que ce soit bourdieusien explique que ce soit allé en histoire aussi, je ne vous dis pas pourquoi, mais voilà. Et qui est aussi une tradition qu'en fait, moi-même, j'ai contribué à solidifier pour la partie analyse factorielle classification, en faisant un tutoriel pour les gens qui ont peur de coder, qui était destiné à des étudiants en histoire au départ, mais qui en fait est consulté largement en ligne, et notamment, pour boucler la boucle, par la fan zone des gens qui font le package FactoMiner, qui sont, à ma connaissance, des ingénieurs de l'INRA, qui bossent plutôt sur les questions de produits alimentaires, à la frontière parfois du marketing. Et ce qui est ironique politiquement, c'est que les deux endroits où on utilise beaucoup ces logiques de classification, c'est les sociologues bourdieusiens, donc ultra critiques, et le marketing. Comme quoi c'est détachable en partie de la théorie. Et en revanche, il y a des communautés où c'est le réflexe d'utiliser ça, et en même temps, c'est dans un package développé en France. Et j'ai aussi utilisé depuis cette HCPC là dans un article publié en anglais où on pouvait la jouer. C'est une méga innovation si on avait voulu, parce qu'ils n'en avaient jamais entendu parler dans une revue états-unienne à la frontière histoire-sociologie. Donc très localisé et d'une façon bizarre qui ne correspond pas forcément à des disciplines, mais plutôt vraiment à cette idée de communauté épistémique.
Oui, de tradition qui finalement, on a tout ce bagage, on a un peu toute l'archéologie derrière dans le code qui se révèle. C'est aussi ça qui était intéressant. Et donc, c'est aussi ce qu'on voulait pointer, souligner, c'est que un langage, il ne faut pas le dissocier d'usage, de pratique, de communauté, de tradition. Et en STS, donc en études des sciences et technologies, on parle souvent de mondes sociaux, d'épistémologie locale. Je vous invite, je vous repartagerai le lien d'un article qui avait été écrit par Sylvain et Eric, donc Parisi et Dagiral, c'est Eric Dagiral et Sylvain Parisi, sur la mise en place de R, d'où vient R, le langage R, ses origines, et comment, même au sein d'un même langage, il y a des épistémologies locales, des communautés qui se rencontrent. Ils avaient étudié aussi la communauté plus de journalistes et d'autres communautés plus des data scientists. Donc, tout ceci est intéressant et éclairant quand on regarde de la perspective STS, par le code, par les traductions, on voit ces mondes sociaux et ces épistémologies locales apparaître. Claire, je te laisse continuer sur le dernier point.
Oui, il y avait juste un point qui est anecdotique sans l'être, en fait, qui nous ramène sur la question de la traduction et d'historique des langages. C'est que cette histoire de facto minor, c'est la libération de quelque chose qui était dans le logiciel propriétaire SPAD, qui est lui-même le produit bizarre de cette double tradition bourdieusienne et marketing française. Le fait est que pas mal des gens qui utilisent certaines choses dans R les utilisent parce qu'ils viennent d'un logiciel propriétaire avant, qui peut être ici SPAD, dans d'autres cas SAS, SPSS, etc. Que dans mon expérience, donc un peu sociologie centrée là-dessus, les gens qui sont dans R sont arrivés dans R en venant de différents logiciels de statistiques propriétaires qu'ils et elles utilisaient avant. Et je ne sais pas, pour les gens qui sont dans Python, à vrai dire, s'il y a en partie le même historique.
Bien. Après, sur cette partie-là, Emilia, on te laisse peut-être ajouter sur langage et évolution des usages quelques points.
Typiquement, là, on était. Enfin, il y a deux points, et je pense que c'est deux points importants. Premièrement, c'est le moment de la reproduction où on se rend compte, que la reproductibilité, qu'on se rend compte des plus grandes différences qui existent justement sur les communautés d'usage. Et parce que là, clairement, les fonctions n'existent pas en sciences humaines et sociales, et donc effectivement plutôt en orienté sociologie en Python, parce que les usagers, et Marianne Ning l'a montré d'ailleurs dans son enquête collective aussi, sont très rares au final dans les sciences humaines et sociales Python, et donc n'ont jamais développé. Et donc là, finalement, c'est par des initiatives un peu localisées, un peu hors clou, telles que celles que vous avez lancées toutes les deux, quoi, que des choses se créent en fait. Et peut-être c'est là un signe qu'il faut multiplier ces interfaces-là. Donc, c'est le moment de friction qui permet de rendre visible un peu ces différences. Ça pose aussi une question de la manière dont on documente les fonctions. Et alors, Factominaire a une documentation, mais par contre, avant de trouver l'article scientifique ou le chapitre de livre qui revient effectivement sur les types de statistiques historiques francophones qui ont été développées pour l'analyse factorielle et pour faire des tests, il a fallu un long chemin avant de trouver les bonnes références pour ensuite les réimplémenter, parce que là, il faut revenir aux formules de sa manière. Et donc là, on avait un enjeu qui était au-delà des différences d'écriture de langage. Comment est-ce qu'on documente quel est le bon niveau d'abstraction pour permettre de revenir à un corpus théorique commun? Alors, ça peut être les mathématiques, qui sont quand même une langue générique assez partagée. Ça peut être aussi des articles séminaux de référence sur lesquels on pourrait revenir en termes de référence. Et donc là, j'ai eu un peu de difficulté. Je pense que c'est une invitation en fait, à davantage préciser à chaque fois qu'une fonction scientifique est faite, même dans des contextes très locaux, de bien mettre la bibliographie qui va avec. En fait, pour faciliter ces transitions-là, le moment, et éviter les ambiguïtés qui peuvent arriver parce que beaucoup de fonctions non similaires ou ont des approches similaires mais un peu différentes et qui, en termes, se payent par des résultats complètement différents à la fin de l'analyse. Et après, la dernière question, c'est que le passage d'une langage à l'autre, en fait, a un coût et dans ce cas précis, on l'a vécu parce que ça a demandé à la fois beaucoup d'échanges, beaucoup d'incompréhension et ça justifie aussi pourquoi c'est souvent confortable de rester au sein de sa communauté de pratique et qu'il faut l'avoir en tête quand on se lance quand on se lance avec une activité déjà en place vers de nouveaux outils, que la transition en fait amène beaucoup de changements quasiment systémiques, parce que c'est souvent tout l'écosystème qu'il faut revoir et réviser, et ça se révèle seulement au fur et à mesure des interdépendances. Enfin, je pense que vous pouvez un peu donner quelques billes.
D'où le fait que ça prend aussi parfois une génération, on va dire que c'est les jeunes qui arrivent dans le labo et qui petit à petit mettent en place de nouveaux outils qui ensuite vont former des stagiaires ou des jeunes étudiants qui vont utiliser ces pratiques. Donc, on avait montré ça aussi dans notre enquête, hein. C'est le rôle des équipes comme espace de transmission et de sensibilisation et d'appropriation de nouveaux usages. Donc, ça, c'est aussi qui était un levier pour transformer les pratiques autour de la science ouverte, le partage de données ou son ouverture. Là-dessus, je ne sais pas, je crois que c'était toi, Emilien, pour qu'on complète aussi.
Oui, mais enfin, ça redit un peu sur les. Ce qui est déjà dit, c'est que, et c'est un peu, j'avais dit au début, c'est qu'au final, notamment en raison des nombreux échanges et emprunts culturels, on va dire, entre les différentes communautés qui existent quand même, on a quand même beaucoup de points de similarité. Et c'est un enjeu qui devient de plus en plus criant actuellement, où bah, des logiciels comme RStudio, qui est devenu Posit, intègre R et Python, les manières de mettre ensemble les documents deviennent de plus en plus agnostiques en termes d'intégration du type de langage sous-jacent. C'est la trajectoire du projet Jupiter aussi, pour donner un autre exemple, mais il y en a beaucoup. Et donc, se pose une question en fait, de la création d'espaces assez isomorphes, ou de plus en plus isomorphes au gré des évolutions, sur lesquels il faut mettre des passerelles. Et c'est un travail qui à la fois de longue haleine, parce qu'il faut être capable d'échanger avec les autres communautés, et en même temps qui se fait par petites étapes, mais qui quand même va dans une sens de convergence. Et donc, comment est-ce qu'à un moment donné, on parle, et là, Claire l'a très bien fait en rappelant qu'il y a une tradition statistique sous-jacente, et qu'en fait, c'est ces travaux-là qui sont un peu la matrice dans laquelle les fonctions ont été créées, et qui gagneraient à être plus visibles dans la manière de parler de ce que l'on fait en termes de traitement de données, plutôt que de parler d'un langage, ou d'avoir un peu une forme de fétichisme de la fonction, qui finalement est de rester beaucoup au niveau de la fonction. Mais bon, ça c'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire, parce que ça implique en fait toujours regarder ce qu'il y a sous le capot, des outils qu'on utilise, tout bêtement, les tests qui sont utilisés, le type d'opération qui est effectivement réalisée, non pas dans la manière dont elle est faite, mais dans la théorie qui l'a inspirée. Voilà. C'est à la fois un vœu pieux et une ligne de fuite.
Et pour conclure, on va vous partager alors bonne pratique, ça fait un peu, on va dire prof, mais c'est plutôt des réflexions qui nous ont inspiré nos échanges sur le dialogue entre R et Python. Donc là, hein, chacun, on s'était dit qu'on discuterait, qu'on partagerait ensemble nos avis. Donc, n'hésitez pas, Emilien et Claire, hein, à compléter. Mais bon, je crois qu'on en a déjà discuté. C'est tout ce qui est de l'ordre de la documentation qui est majeur. Même si Claire l'a bien noté, est-ce que documenter au fil de l'eau l'ensemble des étapes est possible et réaliste, ou est-ce que c'est à un moment donné revenir penser les publics et documenter aussi dans cette optique de sensibilisation à certains publics clés? Donc ça, c'est une question qui se pose. Et donc sur la partie plutôt vigilance sur les fonctions, peut-être que je te laisse, Emilien, continuer, et Claire aussi, je vous laisse continuer.
J'espère que Claire, tu veux prendre la suite?
Moi, je pense qu'on peut passer vite fait, non? Enfin, je ne sais pas si on a le droit de déborder, mais parce qu'en fait, les bonnes pratiques, on les a un peu déjà dites,
ouais.
La plupart, juste compléter à l'occasion et laisser un peu de place aux questions.
Aux questions.
Ouais. Et juste pour rajouter, c'est effectivement, je trouve que ce qui était la force là, de l'activité collective menée, c'est justement la pluralité qui a permis de forcer le travail de documentation. Donc, peut-être une des bonnes pratiques, c'est d'accepter cette pluralité-là. Qui est coûteuse, mais qui permet en fait, par itération successive, d'arriver à une documentation qui devient abstraite du langage et des idiosyncrasies de chacun. Mmh. Donc, dans ce cadre ici, je trouve que ça a marché de manière assez intéressante, où ça a forcé à une surformalisation, enfin, juste pour que je comprenne et pour que je sois capable de mettre, et donner une documentation que je trouve assez claire au final de cette opération spécifique de recherche.
Voilà, et puis, on avait parlé des citations, et on va laisser les questions, c'est peut-être le plus intéressant, on partagera les slides. Mais voilà, l'importance de la littératie et peut-être des citations d'articles de référence en lien avec des fonctions, mais tu as déjà noté. Puis notre dernier point, c'était plus sur les soucis de formation et d'accessibilité, voilà, avec des projets, des exemples. Ça, c'était toi, Claire, qui avait partagé le lien de Programming Historian, qui pouvait être intéressant sur la sensibilisation à la programmation en histoire. Voilà, bah je pense que le mieux, c'est peut-être de passer aux questions, d'être dans un dialogue, là, un échange pour ces dernières minutes, sauf si Claire, Emilien, je ne veux pas être trop rapide sur la fin. Dites-moi si vous avez d'autres points à ajouter.
Non, c'est très bien. Juste, je voulais rajouter un point qui est merci de m'avoir inclus là-dedans parce que ça m'a forcé à beaucoup réfléchir sur les pratiques à titre personnel et ça a eu des conséquences, ben, je l'ai dit un peu, mais plus générales sur la manière de penser la formalisation de choses et de ne pas partir du principe que parce que c'est un code, parce que c'est peut-être un peu ça, c'est une vision peut-être un peu naïve de la reproductibilité, c'est que c'est à partir du moment où il y a un code écrit, on se débrouille. Même s'il y a des versions à installer, même s'il y a des compatibilités, on trouvera bien la manière de faire. Et en fait, il y a quand même plusieurs niveaux encore entre le no-code et le code. Il y a un niveau, et on l'a bien vu avec le travail d'explicitation, et puis même entre deux codes, il y a encore un niveau, et donc on se retrouve avec plein de niveaux d'explicitation. Et donc l'important, c'est de maintenir les collectifs qui portent l'expérience. Dans ce cas, pour le coup, Claire et Célia, avec la présence, était nécessaire pour pouvoir avancer sur la productivité.
Oui, peut-être juste sur moi aussi, j'ai beaucoup appris, je pense que ça nourrit ma recherche, ça me met en confiance aussi parce qu'il y a des trucs que je ne savais pas si c'était moi qui faisais mal ou si R avait des problèmes. Et donc, ça m'a confirmé aussi que quand j'apprends à des gens qui ont peur de coder, je vais leur donner des modèles et tout. Mais avant, je vais leur expliquer ce que je comprends de R. En fait, le côté archipélique, le côté les périphéries moins bien maintenues, etc. Et donc, ça me permet de mieux l'expliquer. Mais je trouve que même si le but, c'est juste d'apprendre aux gens à faire un truc très simple avec deux lignes de code, c'est jamais perdu de leur donner cette vue d'ensemble. Et du coup, maintenant, j'essaye de leur parler un peu de Python pour le peu que j'en connais, parce que moi, j'ai juste suivi des petites initiations. Et peut-être, pour moi, c'est une question ouverte. Je me demandais si, du coup, dans un enseignement, y compris, voire surtout, un enseignement pour des publics rétifs, comme on peut trouver en Digital Humanities, etc., qui, de toute façon, n'ont jamais entendu parler de code et en ont peur, je me demandais si, en fait, c'est pas mieux de leur apprendre deux trucs dès le début. Enfin, moi, je fais ça aussi quand je montrais les tableurs. Souvent, je montrais à la fois Excel et Calc, parce que les gens n'avaient pas toujours la même chose. Mais en fait, c'est aussi une façon de distinguer ce qu'on veut faire de l'outil, et de leur dire, ouais, il y a des petites différences, etc. Et donc, je jette ça, mais c'est déjà assez dur d'apprendre à coder. Mais est-ce qu'il ne faut pas apprendre à coder de deux manières différentes dès le départ? Ce qui se relie à des discussions un peu spéculatives, en fait, sur l'enseignement des langues, puisque vous avez vu qu'on était dans la métaphore de la traduction tout le temps. C'est plus qu'une métaphore, puisque c'est des langages. Sur l'idée, par exemple, qu'on peut enseigner plusieurs langues romanes simultanément, ou des choses comme plusieurs langues proches les unes des autres.